Salut, c'est Queen Jolinard et bienvenue dans la pastille X. Aujourd'hui, nous allons aborder les sorties du mercredi 14 juillet 2021 qui comptaient au programme Excalibur 22, Way of X 4 et X-Corp 3. Pour rappel, ma grille de notation, c'est à ne pas manquer, à lire et à éviter. Place aux critiques.
Stryker came by today.
Why is he bothering you after all these years?
Because I'm the best there is at what I do. But what I do best isn't very nice.
You're not an animal, Logan. What you have is a gift.
A gift. You can return a gift.
On commence donc, comme je le disais, par Excalibur 22, scénarisé par Tiny Howard, dessiné par Mark Husto et colorisé par Eric Arciniega. Donc moi j'avais dit précédemment que Excalibur était une série que je trouvais très moyenne voire passable. C'était vraiment une des séries que j'aimais le moins dans l'ensemble de ce qui était proposé dans la franchise mutante depuis House of X Powers of Ten. Qui plus est, l'événement Ten of Swords m'a complètement aliéné la série et son autrice. Je trouvais vraiment que cet épisode n'avait ni queue ni tête, en particulier sur la partie tournoi, mais on y reviendra, je pense, à une autre occasion. Concentrons-nous donc sur ce numéro 22 de Excalibur. Donc ça prend la suite des événements du numéro 21 qui se plaçait dans le cadre du Hellfire Gala, avec particulièrement la conséquence de la fin de l'alliance entre le Royaume-Uni et la nation mutante de Krakoa. Fin d'une alliance qui se concrétise principalement par une chose, c'était la destruction des portes sur le territoire du Royaume-Uni, les portes krakoanes. L'épisode aborde d'autres éléments, notamment le fait que Pete Wisdom avait été sacrifié par une cabale qui avait utilisé son sacrifice pour libérer Morgan Le Fay. Pour l'instant, ça c'est pas une conséquence qu'on voit trop. En tout cas, la libération de Morgan Le Fay n'est pas trop abordée dans cet épisode. Par contre, le retour de Pete Wisdom lui fait réfléchir sur certaines choses. Et ça fait partie d'une des conséquences de cet épisode 22. Conséquence qui n'évoque rien pour moi. J'ai très peu de bagages mutants avant les années 2010. Donc je peux supposer que pour certains fans de la franchise mutante, ça peut être intéressant. Moi, ça me vaut rien, je suis curieuse en tout cas. Pour le reste, c'était une expédition dans un territoire de l'Other World avec Beast qui voulait étudier un échantillon de sol. Pour l'instant, j'ai pas trop compris où ce pan d'intrigue voulait aller. Et puis, ça a été surtout la confrontation entre tout d'abord Merlin et Saturnine chez Saturnine. Donc Merlin qui limite déclare une guerre contre la citadelle, et puis ensuite Excalibur, ou en tout cas une partie de l'équipe, qui va se rendre chez Merlin, y libérer des fées qui étaient prisonnières du magicien, et une tentative de fuite. Encore une fois, une partie d'intrigue, on ne sait pas vraiment où ça va. Globalement, c'est ça, de toute façon, Excalibur depuis le début. Enfin, correction. Globalement, Excalibur, c'est ça depuis le départ de Hey, Apocalypse. C'est, on ne sait pas trop où on va, on pose des trucs, on en parle, les personnages ont des voix qui changent d'un épisode à l'autre. C'est assez c'est particulier. Et quand je parle de voix, je parle pas tant de leur caractérisation que parfois même de la façon dont ils s'expriment. Là par exemple, la façon dont est écrite dont est écrit l'accent de Gambit, donc son accent cajun, j'ai pas souvenir qu'il ait été écrit exactement de la même façon dans les épisodes précédents, dans les 21 épisodes précédents. C'est assez perturbant. En plus, alors c'est très perturbant pour nous francophones, puisqu'il y a des fautes en plus de français. Bon, le cher qui est utilisé à toutes les sauces continue de me sortir par les yeux, normalement ça doit être chéri. Là on a des utilisations de mon ami, sauf que c'est marqué, c'est genré au masculin, alors qu'il s'adresse à des personnages féminins. C'est du français de base, enfin, à ce stade-là, Moi, je sais. Ça, c'est vraiment. Ils y peuvent rien, quelque part, les anglophones. Enfin, ils y peuvent rien. Ils peuvent s'en foutre complètement. Moi, je remarque parce que je suis francophone et que je connais ma langue et je suis sûr qu'il y a des auteurs anglophones qui utilisent de l'espagnol, de l'italien, du portugais ou d'autres langues encore et qui font des fautes et ça doit faire sortir les yeux des personnes concernées. Bon, là, pour le coup, c'est du français par un personnage qui a un côté franco-anglophone prononcé comme celui de Gambit. Quelque part, il devrait y avoir une bible sur le personnage, des expressions qu'il va utiliser et puis on s'en tient à ça, quoi. Et ça devrait exister et il devrait plus y avoir d'erreurs de ce style-là. Donc, vrai, je sais que je fais je me concentre sur un petit détail pour en faire un défaut majeur, mais à ce stade-là, moi ça compte. Enfin, ça m'a vraiment sauté aux yeux et c'est la première fois que je m'exprime sur le sujet, donc j'en profite. Voilà. Donc Excalibur. Voilà. Si vous continuez d'apprécier cette série, foncez. Mais sinon, vraiment, c'est pas le moment de C'est pas parce que c'est un nouvel arc, un début de nouvel arc qui suit le Hellfire Gala qu'il faut vous ruer cette série, non, vraiment, à éviter, ou au pire à lire, mais franchement, épargnez-vous, c'est plutôt, ça va plutôt être mon conseil.
Who's the furball?
Hank McCoy, Secretary of Mutant Affairs.
Right, right, the Secretary. Nice suit.
Henry, this is Logan. He's
Wolverine.
I hear you're quite an animal.
Logan's talking.
Way of X4, par contre, c'est toujours de la bombe. Donc, scénarisé par Cy Spurrier, dessiné par Robert Quinn, aucun lien, et colorisé par Javier Tartaglia. Way of X, qui cette fois-ci va se concentrer sur la règle mutante qui est Kill No Man. Et par Man, on entend Human. Encore une fois, c'est super intéressant. C'est super intéressant sur ce que ça dit des mutants. Sur ce que ça dit philosophiquement, qu'est-ce que ça signifie qu'une nation ait choisi pour principe de ne pas tuer son espèce prédatrice? Car c'est ça qui a été défini dans House of X Powers of Ten et dans la suite de. Dans la période Dawn of X. Les humains sont l'espèce prédatrice des mutants. Et ce sera presque toujours le cas. Alors certes, là, les mutants ont gagné un boost. Très puissant, très efficace avec toute la création de la nation mutante et tout ce qui va autour. Mais vraiment, les humains restent les prédateurs des mutants et c'est encore le cas et il faut s'en préserver et il faut s'en préserver quitte à se couper une main quelque part. C'est un peu ce que dénonçait Fabian Cortés dans, je crois que c'était l'épisode 5 de Sword et il en reparle ici. Alors, dans Sword, il avait contesté cette loi et il s'était fait, entre guillemets, punir, ostraciser pour ça. Le personnage est revenu dans l'épisode précédent de Way of X, avait une interaction assez particulière avec le nouveau personnage qui est Lost, et on le retrouve ici dans une nouvelle position très particulière. Vraiment, ça fait froid dans le dos, je connaissais pas ce personnage avant son apparition dans Sword, et vraiment, là, dans cet épisode de Way of X, il m'a foutu les jetons, quoi. Sa façon de penser et ce qu'il veut mettre en place, les extrémités auxquelles il est capable de se livrer pour prouver son point des limites de la règle de Kill No Man, vraiment ça fait froid dans le dos. Et effectivement, quand en plus il fait ça face à un personnage qui généralement est plutôt pacifiste et qui n'a pas un éventail de possibilités, de capacités qui lui permettraient d'aller contre ce que met en place Fabian Cortés, ça fait vraiment froid dans le dos. On était vraiment dans une situation vraiment qui pouvait finir au drame, avec un personnage dont on découvre, enfin c'est pas qu'on le découvre, mais là c'est clairement matérialisé, qu'on pensait mort et finalement non, il a quand même été ressuscité d'une certaine façon. Je vous laisserai découvrir de quel personnage je parle, je vais pas spoiler. Il y a aussi bien entendu toute une partie de l'intrigue sur Légion qui enfin rencontre son père, c'était attendu. Pour le coup, pour moi, c'est pas un spoil de le dire. À un moment ou un autre, ça devait arriver. Surtout que Xavier et Professeur X étaient présents dans le premier épisode de Way of X. Voilà, donc il y a enfin une confrontation entre Légion et son père. Très intéressante. Encore une fois, sur ce que ça dit sur les personnages. Les jumeaux Xorn, Donc Zorn et Zorn, qu'on voyait en arrière-plan depuis le retour de Légion, ont un rôle un peu plus central et surtout on comprend mieux la raison de leur présence ici. Encore une chose très intéressante sur ce que ça peut dire de certains personnages. Et le final, magique, magnifique. Vraiment, c'est à ce stade-là, je peux pas trop parler pour X-Men qui vient de reprendre avec le numéro 1, mais Way of X est, je pense, la meilleure série mutante pour le moment, de tout ce qui nous est proposé. C'est une indispensable, c'est vraiment à ne pas manquer, et j'ose espérer que vous n'avez pas manqué tous les numéros depuis le début. Malheureusement, encore une fois, on se rappelle que c'est annoncé comme une sorte de mini-série qui se conclura avec un numéro centré sur Onslaught. On verra bien ce que ça donne. J'espère que Sidesperrier se verra offrir une autre série mutante après. J'espère vraiment parce que je pense que c'est celui qui exploite le mieux le contexte de la nation mutante et ce qu'on peut dire dans ce nouveau paradigme, en tout cas sur la partie philosophique et religieuse. Vraiment, à ne pas manquer, foncez sur Way of X.
How about now?
I prefer the real Raven. I said the real Raven. Perfection.
On termine les critiques de cette semaine. Je vais être plus rapide, je pense, sur ce numéro. Donc, c'est X-Corp numéro 3, scénarisé par Tini Howard de nouveau, dessiné par Valentine Delandro et colorisé par Sonny Go, avec un backup de Jason Liu. Donc on a un nouveau dessinateur, Valentine Delandro. Je suis pas sûr d'avoir déjà croisé, en tout cas ça m'a pas marqué. Je suis très partagé sur ce dessin, qui est beaucoup plus cartoony que le dessinateur précédent. L'intrigue se poursuit, donc après avoir exploré dans les deux premiers numéros la partie pharmaceutique de la Nation Mutante et de X-Corp, va s'intéresser à un nouveau domaine, qui est le domaine des télécommunications. Et c'est intéressant et c'est quelque part plutôt cohérent de s'intéresser à ce domaine-là, en particulier après les événements. Enfin, disons que les événements du premier épisode pouvaient nous indiquer qu'on allait aller dans cette direction-là. Je trouve ça super intéressant. Mais ce qu'il y a de central dans cette série, au final, en tout cas dans ce numéro, c'est le personnage Madrox. À nouveau, on explique le fonctionnement de son pouvoir et certaines de ses forces et certaines de ses faiblesses qui seront exploitées dans cet épisode. Alors je vais faire juste une petite parenthèse spoiler. Hein. Donc Madrox a des peut se dupliquer à l'infini et lorsqu'il réabsorbe un dupes, comme il dit dans la série, il absorbe ses souvenirs. Il est confronté à un moment à un dilemme, c'est que il doit se centrer, lui l'original, sur l'expérience en cours autour donc du déploiement d'une nouvelle technologie de X-Corp. Il ne veut pas confier ça à un de ses doubles. Sauf que Leila, son épouse, le sollicite par rapport au premier pas d'un de leurs enfants. Et donc du coup il confie cette tâche à un de ses doubles, qui va vivre les premiers pas de l'enfant, et normalement, il était impératif que ce double soit réabsorbé pour que Jamie puisse récupérer les souvenirs liés à cet événement, et il arrive quelque chose, et il ne pourra pas absorber ces souvenirs, et moi, en tant que parent, je ne dois pas vous cacher que ça m'a énormément touché, parce que si vous n'êtes pas parent, vous n'allez pas comprendre cela, je vais essayer de vous l'expliquer. Lorsque vous avez un enfant, vous allez projeter sur lui toutes ses premières fois. Pas forcément dès sa naissance, mais au fur et à mesure de sa progression, chaque fois qu'il va franchir une étape, vous allez projeter les futures étapes et donc les premières fois qu'il va y avoir liées à ces étapes. Et on le sait, dans la vie d'un enfant, il y en a qu'on considère comme des étapes immanquables, importantes. Premier pas d'un enfant, ça en fait partie dans l'imaginaire collectif et en tout cas dans l'expérience partagée parentale. C'est quelque chose que j'aurais pu louper en tant que parent, hein, les premiers pas de ma fille, que j'ai vécu, qui est une expérience vraiment saisissante, et je ne peux que imaginer ce que ça aurait pu être si je l'avais loupé. Et là c'est d'autant plus gravissime pour le personnage de Jamie que quelque part il aurait pu ne pas les louper, il aurait pu les vivre, et Tina Howard est très pudique hein, sur ce moment-là, et j'espère que ça ne sera pas juste balayé sous le tapis. Voilà, après, je ferme la parenthèse spoiler. Après, l'épisode est plus ou moins classique, hein, on reste sur la même dynamique hein, d'exploration des intrigues politiques et économiques, avec le personnage de Sarah St. John, quelque chose comme ça, qui est donc une des antagonistes hein, de la série jusqu'ici, qui fait quelque chose à Monet, qui va très certainement générer des complications à l'avenir. C'est intéressant, et je trouve que Tina Howard écrit beaucoup mieux ses personnages dans cette série qu'elle ne les écrit dans Excalibur, et écrit mieux ses intrigues également. Donc là où Excalibur, j'aurais tendance à vous dire, vous pouvez vous passer de cette série, Excorp. Si jusqu'ici la série vous a porté, vous pouvez continuer largement avec cet épisode 3. C'est un à lire, je dis pas que c'est un à ne pas manquer, mais c'est un à lire très confortable. J'ai oublié de parler, il y a un backup de 2 pages en fin d'épisode, entièrement réalisé par Jason Liu, qui nous parle encore de Jamie Madrox, cette fois-ci sur une mission qu'il a pu mener liée à une entreprise qui mène des expériences sur les mutants, et dans la construction c'est assez sympathique, mais classique, enfin c'est pas révolutionnaire. Avec des chemins à suivre suivant là où vont les personnages, puisque l'action se déroule en même temps. C'est sympathique, mais pas transcendant. Mais c'est important de le noter.
You know, I believe that true focus lies somewhere between rage and serenity. Do you mind?
On se retrouve la semaine prochaine pour 2 numéros, Marauders 22 et New Mutants 20. J'annonce tout de suite, puisque c'est en cours de création, en plus des pastilles hebdomadaires sur les sorties, je compte réaliser des plusieurs épisodes qu'on pourrait qualifier de hors-série, en tout cas format long. Je n'aurais pas encore trouvé de petits noms, mais ça ne saurait tarder. Le premier se concentrera, il était difficile de faire autrement, sur le diptyque House of X Powers of Ten. Je serai accompagné par 3 personnes avec des avis divergents sur ce sujet-là. Il n'y a pas encore de date actée d'enregistrement, mais je vous tiendrai au courant, bien entendu, au fur et à mesure de la progression de ce projet. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Je vous dis donc à la semaine prochaine et je vous fais des bisous. Ciao !